Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Troisième épisode.
Depuis les événements que l'on va raconter, rien n'a changé à Yonville. Le drapeau tricolore de fer blanc tourne toujours au haut du clocher de l'église. La boutique du marchand de nouveautés agite encore au vent ses deux banderoles d'indiennes. Les fœtus du pharmacien, comme des paquets d'amadou blanc, se pourrissent de plus en plus dans leur alcool bourbeux. Et au-dessus de la grande porte de l'auberge, le vieux lion d'or, déteint par les pluies, montre toujours aux passants sa frisure de caniche. Le soir que les époux Bovary devaient arriver à Yonville, Madame Veuve Lefrançois, la maîtresse de cette auberge, était si fort affairée qu'elle suait à grosses gouttes en remuant ses casseroles. C'était le lendemain, jour de marché dans le bourg.
Artémise, casse de la bourrée, emplis les carafes, apporte de l'eau de vie, dépêche-toi! Au moins, si je savais quel dessert offrir à la société que vous attendez, monsieur Homais.
Oh, Madame Lefrançois, nous lui faisons confiance.
Oh. Ah, l'hirondelle, les voilà qui arrivent.
Emma descendit la première, puis Félicité, et l'on fut obligé de réveiller Charles dans son coin, où il s'était endormi complètement dès que la nuit était venue. Homais, le pharmacien, se présenta. Il offrit ses hommages à madame, ses civilités à monsieur, dit qu'il était charmé d'avoir pu leur rendre quelques services, et ajouta d'un air cordial qu'il avait osé s'inviter lui-même, sa femme d'ailleurs étant absente. Madame Bovary, quand elle fut dans la cuisine, s'approcha de la cheminée. Du bout de ses deux doigts, elle prit sa robe à la hauteur du genou, et l'ayant ainsi remontée jusqu'aux chevilles, elle tendit à la flamme, par-dessus le gigot qui tournait, son pied chaussé d'une bottine noire.
Monsieur Léon, ne restez pas là à faire le timide. Vous viendrez bien dîner avec la compagnie.
Madame, sans doute, est un peu lasse. On est si épouvantablement cahoté dans notre hirondelle.
Il est vrai, mais le dérangement m'amuse toujours. J'aime à changer de place.
C'est une chose si maussade que de vivre cloué aux mêmes endroits.
Si vous étiez comme moi sans cesse obligé d'être à cheval...
Mais rien n'est plus agréable. Il me semble, quand on le peut.
Bon appétit.
Vous verrez, monsieur Bovary, que l'exercice de la médecine n'est pas fort pénible en nos contrées, car l'état de nos routes permet l'usage du cabriolet. Et généralement, l'on paye assez bien, les cultivateurs étant aisés.
Avez-vous du moins quelques promenades dans les environs?
Nous avons tout le rapport médical.
Oh, fort peu. Il y a un endroit que l'on nomme la pâture, sur le haut de la côte à la lisière de la forêt. Quelquefois, le dimanche, je vais là et j'y reste avec un livre, à regarder le soleil couchant.
Je ne trouve rien d'admirable comme les soleils couchants, mais au bord de la mer surtout.
Oh, j'adore la mer.
Et puis, ne vous semble-t-il pas que l'esprit vogue plus librement sur cette étendue sans limite, dont la contemplation vous élève l'âme et donne des idées d'infini, d'idéal?
Il en est de même des paysages de montagne. Aussi, je ne m'étonne plus de ce musicien célèbre qui, pour exciter mieux son imagination, avait coutume d'aller jouer du piano devant quelques sites imposants.
Ah, vous trouverez bien des préjugés à combattre, monsieur Bovary.
J'ai un cousin.
Bien des entêtements à la routine se heurteront quotidiennement tous les efforts de votre science. Car on a recours encore aux neuvaines. Aux reliques, aux curés, plutôt que de venir naturellement chez le médecin ou chez le pharmacien.
Vous faites de la musique?
Non, mais je l'aime beaucoup.
Oh, ne l'écoutez pas, madame Bovary. C'est modestie pure. Comment, mon cher? Et l'autre jour, dans votre chambre, vous chantiez l'ange gardien à ravir. Je vous entendais du laboratoire. Vous détachiez cela comme un acteur.
Léon, en effet, logeait le temps de ses études chez le pharmacien, où il avait une petite pièce au second étage sur la place. Il rougit à ce compliment de son propriétaire, qui déjà s'était tourné vers le médecin et lui énumérait, les uns après les autres, les principaux habitants de Yonville. Il racontait des anecdotes, donnait des renseignements.
Et quelle musique préférez-vous?
Oh, la musique allemande, celle qui porte à rêver.
Connaissez-vous les Italiens?
Pas encore, mais je les verrai l'année prochaine quand j'irai habiter Paris pour finir mon droit.
C'est comme j'avais l'honneur de l'exprimer à monsieur votre époux à propos de ce pauvre Yanota qui s'est enfui. Vous vous trouverez, grâce aux folies qu'il a faites, jouir d'une des maisons les plus confortables d'Yonville. Ce qu'elle a principalement de commode pour un médecin, c'est une porte sur l'allée qui permet d'entrer et de sortir sans être vu. D'ailleurs, elle est fournie de tout ce qui est agréable à un ménage. Et si madame aime le jardinage, elle pourra...
Ma femme ne s'en occupe guère. Elle aime mieux, quoi qu'on lui recommande l'exercice, toujours rester dans sa chambre à lire.
C'est comme moi. Quelle meilleure chose, en effet, que d'être le soir au coin du feu avec un livre, pendant que le vent bat les carreaux, que la lampe brûle.
N'est-ce pas ?
On ne songe à rien, les heures passent. On se promène immobile dans des pays que l'on croit voir, et votre pensée, s'enlaçant à la fiction, se joue dans les détails, ou poursuit le contour des aventures. Elle se mêle aux personnages. Il semble que c'est vous qui palpitez sous leur costume.
C'est vrai, c'est vrai.
Vous est-il arrivé, parfois, de rencontrer dans un livre une idée vague que l'on a eue, quelque image obscurcie qui revient de loin et comme l'exposition entière de votre sentiment le plus délié?
J'ai éprouvé cela.
Il est si doux parmi les désenchantements de la vie de pouvoir se reporter en idées sur de nobles caractères, des affections pures et des tableaux de bonheur. Quant à moi, vivant ici loin du monde, c'est ma seule distraction. Mais Yonville offre si peu de ressources.
Comme toutes, sans doute. Aussi, j'étais toujours abonnée à un cabinet de lecture.
Ah, si madame veut me faire l'honneur d'en user, j'ai moi-même à sa disposition une bibliothèque composée des meilleurs auteurs. Voltaire, Rousseau, Delille, Walter Scott, l'écho des feuilletons, etc. Et je reçois de plus différentes feuilles périodiques, parmi lesquelles le Fanal de Rouen quotidiennement, ayant l'avantage d'en être le correspondant pour les circonscriptions de Buchy, Forges, Neuchâtel, Yonville et les alentours.
Quand le café fut servi, Félicité s'en alla préparer la chambre dans la nouvelle maison, et les convives bientôt levèrent le siège. C'était la quatrième fois qu'Emma couchait dans un endroit inconnu. La première avait été le jour de son entrée au couvent, la seconde celle de son arrivée à Tôte, la troisième à la Vaubyessard, la quatrième était celle-ci. Et chacune s'était trouvée faire dans sa vie comme l'inauguration d'une phase nouvelle. Elle ne croyait pas que les choses pussent se représenter les mêmes à des places différentes, et puisque la portion vécue avait été mauvaise, sans doute ce qui restait à consommer serait meilleur.
On va être bien ici. Qu'en dis-tu, petite maman ?
À mesure que le terme de la grossesse approchait, Charles chérissait Emma davantage. Quand il voyait de loin sa démarche paresseuse et sa taille tournée mollement sur ses hanches sans corset, quand vis-à-vis l'un de l'autre il la contemplait tout à l'aise et qu'elle prenait, assise, des poses fatiguées dans son fauteuil, alors son bonheur ne se tenait plus. L'idée d'avoir engendré le délectait. Rien ne lui manquait à présent. Il connaissait l'existence humaine tout du long, et il s'y attablait sur les deux coudes avec sérénité. Emma d'abord sentit un grand étonnement, puis eut envie d'être délivrée pour savoir quelle chose c'était que d'être mère. Elle souhaitait un fils. Il serait fort, brun, elle l'appellerait Georges. Et cette idée d'avoir pour enfant un mâle était comme la revanche en espoir de toutes ses impuissances passées. Un homme au moins est libre. Il peut parcourir les passions et les pays, traverser les obstacles, mordre au bonheur les plus lointains. Mais une femme est empêchée continuellement. Elle a contre elle les mollesses de la chair avec les dépendances de la loi.
C'est une fille.
Elle accoucha un dimanche vers 6 heures au soleil levant.
Emma ? Emma ! Reviens à toi, Emma !
Pendant sa convalescence, Emma s'occupa beaucoup à chercher un nom pour sa fille. D'abord, elle passa en revue tous ceux qui avaient des terminaisons italiennes, telles que Clara, Louisa, Amanda, Atala. Elle aimait assez Galzuinde, plus encore Iseute ou Léocadie. Charles désirait qu'on appelât l'enfant comme sa mère. Emma s'y opposait. On parcourut le calendrier d'un bout à l'autre et l'on consulta les étrangers.
Moi, personnellement, j'aime les prénoms qui rappellent un grand homme, un fait illustre ou une conception généreuse.
Et comment s'appellent vos enfants ?
Napoléon, Franklin, Irma et Athalie.
Enfin, Emma se souvint qu'au château de la Vaubyessard, elle avait entendu la marquise appeler Berthe une jeune femme. Dès lors, ce nom-là fut choisi. Dès les premiers froids, Emma quitta sa chambre pour habiter la salle. Assise dans son fauteuil, près de la fenêtre, elle voyait passer les gens du village sur le trottoir. Léon, deux fois par jour, allait de son étude à l'auberge du Lion d'Or. Emma, de loin, l'entendait venir, elle se penchait en écoutant, et le jeune homme glissait derrière le rideau, toujours vêtu de même façon et sans détourner la tête. Mais au crépuscule, lorsque, le menton dans sa main gauche, elle avait abandonné sur ses genoux sa tapisserie commencée, souvent, elle tressaillait à l'apparition de cette ombre glissant tout à coup. Elle se levait et commandait qu'on mît le couvert.
Bonsoir la compagnie. Justin est-il encore chez vous ?
Votre élève ?
Oui. Il devrait être en train de fermer la pharmacie.
Et je ne le trouve pas.
Mon gaillard commence à avoir des idées et je crois diablement porte qu'il est amoureux de votre bonne. Et puis figurez-vous qu'il écoute aux portes. Chaque dimanche, lorsqu'on reçoit, il est impossible de le faire sortir du salon.
Il ne venait pas grand monde à ces soirées du pharmacien. On faisait d'abord quelques parties de 31, ensuite M. Homais jouait à l'écarté avec Emma, Léon derrière elle lui donnait des avis. Lorsque la partie de cartes était finie, l'apothicaire et le médecin jouaient au domino. M. Homais y était fort, il battait Charles à plein double six. Puis les trois centaines terminées, ils s'allongeaient tous deux devant le foyer et ne tardaient pas à s'endormir. Alors Emma et Léon se parlaient à voix basse. Et la conversation qu'ils avaient leur semblait plus douce parce qu'elle n'était pas entendue. Ainsi s'établit entre eux une sorte d'association, un commerce continuel de livres et de romances. Monsieur Bovary, peu jaloux, ne s'en étonnait pas.
Ô temps, suspends ton vol.
Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours.
Léon, jusqu'alors, n'avait jamais causé aussi librement avec une dame. Il se torturait à découvrir par quels moyens lui faire sa déclaration. Souvent, il se mettait en marche, dans le projet de tout oser, mais cette résolution l'abandonnait bien vite en la présence d'Emma. Et quand Charles, survenant, l'invitait à monter dans son boc pour aller voir ensemble quelques malades aux environs, il acceptait aussitôt, saluait madame et s'en allait. Son mari. N'était-ce pas quelque chose d'elle ?
Emma, regarde ce que Léon m'a ramené de Rouen pour ma fête. Une tête phrénologique, toute numérotée. C'est exactement ce qu'il manquait à mon cabinet.
Je lui fais renvoyer quelque chose pour le remercier.
Un soir en rentrant, Léon trouva dans sa chambre un tapis de velours et de laine avec des feuillages sur fond pâle. Il appela Madame Homais, Monsieur Homais, Justin, les enfants, la cuisinière, il en parla à son patron. Tout le monde désira connaître ce tapis. Pourquoi la femme du médecin faisait-elle au clerc des générosités? Cela parut drôle, et l'on pensa définitivement qu'elle devait être sa bonne amie. Quant à Emma, elle ne s'interrogea point pour savoir si elle l'aimait. L'amour, croyait-elle, devait arriver tout à coup, avec de grands éclats et des fulgurations. Ouragan des cieux qui tombe sur la vie, la bouleverse, arrache les volontés comme les feuilles et emporte à l'abîme le cœur entier. Elle ne savait pas que sur la terrasse des maisons, la pluie fait des lacs quand les gouttières sont bouchées. Et elle fut ainsi demeurée en sa sécurité lorsqu'elle découvrit brusquement une lézarde dans le mur.
Oui. Charmant. Léon est charmant. N'aime-t-il pas? Qui? Mais c'est moi. Oui. Il m'aime. Oh! Si le ciel l'avait voulu. Pourquoi, n'est-ce pas? Qui empêcherait-on ?
Ce dimanche-là, Madame Bovary n'alla pas chez ses voisins. Quand Charles, à minuit, rentra, elle eut l'air de s'éveiller, et comme il fit du bruit en se déshabillant, elle se plaignit de la migraine, puis demanda nonchalamment ce qui s'était passé dans la soirée.
Monsieur Léon est remonté de bonne heure.
Elle ne put s'empêcher de sourire, et elle s'endormit, l'âme remplie d'un enchantement nouveau. Un soir, à la nuit tombante, Emma reçut la visite du sieur Lheureux, marchand de nouveautés. C'était un homme habile que ce boutiquier. Il posa sur la table un carton vert et commença par se plaindre à madame, avec force civilité, d'être resté jusqu'à ce jour sans obtenir sa confiance.
Une pauvre boutique comme la mienne n'est pas faite pour attirer une élégante. Pourtant, vous n'avez qu'à commander, madame. Et je me charge de vous fournir ce que vous voudrez. Je me rends en ville 4 fois par mois, savez-vous. Aujourd'hui, je ne vous montre que quelques articles. Regardez. Et c'est une occasion des plus rares. Une demi-douzaine de cols brodés.
Je n'ai besoin de rien.
J'ai aussi des écharpes algériennes, plusieurs paquets d'aiguilles anglaises, une paire de pantoufles en paille et 4 coquetiers en coco ciselés à jour par des forçats. Regardez, madame.
Combien coûtent les écharpes ?
Une misère. Une misère. Mais rien de presse. Quand vous voudrez.
Non. Merci, je n'ai besoin de rien.
Eh bien, nous nous entendrons plus tard. Avec les dames, je me suis toujours arrangé, si ce n'est avec la mienne, cependant. C'était pour vous dire que ce n'est pas l'argent qui m'inquiète. Je vous en donnerais s'il le fallait.
Vraiment ?
Oh, je n'aurais pas besoin d'aller bien loin pour vous en trouver. Comptez-y. Enfin, au revoir, Madame Bovary. À votre disposition. Serviteur très humble.
Comme j'étais sage.
Félicité, vous me montrez un plateau dans ma chambre. Je vais dîner en haut ce soir.
Elle entendit des pas dans l'escalier. C'était Léon. Elle se leva, prit sur la commode parmi les torchons à ourler le premier de la pile. Elle semblait fort occupée quand il parut. La conversation fut languissante, Madame Bovary l'abandonnant à chaque minute. Elle poussait son aiguille ou, de temps à autre, avec son ongle, fronçait les plis de la toile. Elle ne parlait pas, il se taisait, captivé par son silence, comme il l'eût été par ses paroles.
Je dois aller à Rouen la semaine prochaine. Il me semble que votre abonnement de musique est terminé. Dois-je le reprendre ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que...
Vous l'abandonnez donc ?
Quoi ? La musique ? Ah, mon Dieu, oui. N'ai-je pas ma maison à tenir, mon mari à soigner, 1000 choses, enfin. Bien des devoirs qui passent auparavant. Et Charles qui n'arrive pas ce soir. Il est si bon. Ah, c'est un brave homme.
Certes.
Il en fut de même les jours suivants. Ses discours, ses manières, tout changea. On la vit prendre à cœur son ménage, retourner à l'église régulièrement et tenir sa servante avec plus de sévérité. Elle retira Berthe de nourrice. Elle déclarait adorer les enfants. C'était sa consolation, sa joie, sa folie. Quand Charles rentrait, il trouvait auprès des cendres ses pantoufles à chauffer, et lorsque Léon le voyait au coin du feu, après le dîner, les deux mains sur le ventre, la joue rougie par la digestion, les yeux humides de bonheur, avec l'enfant qui se traînait sur le tapis et cette femme à taille mince qui, par-dessus le dossier du fauteuil, venait le baiser au front. Il se disait...
Quelle folie. Comment arriver jusqu'à elle? Jamais. Jamais.
Emma maigrit, ses joues pâlirent, sa figure s'allongea. Avec ses bandeaux noirs, ses grands yeux, son nez droit, sa démarche d'oiseau, et toujours silencieuse maintenant, ne semblait-elle pas traverser l'existence en y touchant à peine et porter au front la vague empreinte de quelque prédestination sublime? Mais cette robe au pli droit cachait un cœur bouleversé et ses lèvres si pudiques n'en racontaient pas la tourmente. Elle était amoureuse de Léon, et elle recherchait la solitude afin de pouvoir plus à l'aise se délecter en son image. Mais plus Emma s'apercevait de son amour, plus elle le refoulait, afin qu'il ne parût pas et pour le diminuer. Elle songeait qu'elle l'avait repoussé trop loin, qu'il n'était plus temps, que tout était perdu. Puis l'orgueil, la joie de se dire « je suis vertueuse » et de se regarder dans la glace en prenant des poses résignées, la consolait un peu du sacrifice qu'elle croyait faire. Ce qui l'exaspérait, c'est que Charles n'avait pas l'air de se douter de son supplice. La conviction où il était de la rendre heureuse lui semblait une insulte imbécile, et sa sécurité là-dessus, de l'ingratitude. Elle aurait voulu que Charles la battît, pour pouvoir plus justement le détester, s'en venger. Elle s'étonnait parfois des conjectures atroces qui lui arrivaient à la pensée. Et il fallait continuer à sourire, s'entendre répéter qu'elle était heureuse, faire semblant de l'être, le laisser croire. Elle avait des dégoûts cependant de cette hypocrisie. Des tentations la prenaient de s'enfuir avec Léon, quelque part bien loin, pour essayer une destinée nouvelle, mais aussitôt il s'ouvrait dans son âme un gouffre vague, plein d'obscurité.
Pas le dire à monsieur.
Ce sont les nerfs. Ne lui en parle pas, tu l'afflicherais.
Vous êtes justement comme la guérine que j'ai connue à Dieppe. Elle était si triste. Si triste qu'à la voir debout sur le seuil de sa maison, elle vous faisait l'effet d'un drap d'enterrement tendu devant la porte. Son mal, à ce qui paraît, était une manière de brouillard qu'elle avait dans la tête. Et les médecins n'y pouvaient rien. Ni le curé non plus. Quand ça la prenait trop fort, elle s'en allait toute seule sur le bord de la mer. Si bien que le lieutenant de la douane, en faisant sa tournée, souvent la trouvait étendue à plat ventre et pleurant sur les galets. Puis après son mariage, ça lui a passé, dit-on.
Mais moi, c'est après le mariage que ça m'est venu.
Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Adaptation, Pauline Timonier. Troisième épisode. Avec Pascal Rénéric, Aurélie Nusillard, Philippe Bautier, Hervé Pierre, Myriam Azinko, Cyril Descours, Mauricette Gourdon, Bernard Bouillon, Pauline Ziadé, Peggy Martineau.
Musique originale et piano, Mathieu Lambollet. Avec le quatuor Hanson et Thomas Tantina à la contrebasse.
Bruitage, Benoît Fèvre, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Manuel Couturier, Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Laure Egoroff.